talmudique. Walter Benjamin écrit « Il existe un tableau de Paul Klee, daté de 1928, qui s'intitule « Angelus Novus ». Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit lui qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Vincent Peillon, bonjour.
Bonjour.
Vincent Peillon, vous êtes philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur de nombreux ouvrages de philosophie et en particulier sur Merleau-Ponty et sur la question de la démocratie, de la République et de la laïcité. Vous venez de faire paraître un ouvrage très important intitulé « Jérusalem n'est pas perdue », sous-titré « La philosophie juive de Joseph Salvador et le judéo-républicanisme français ». Un titre et un sous-titre que nous allons expliciter et qui vont prendre un sens d'autant plus riche et fécond si nous nous attardons sur les deux conceptions de l'histoire opposées que met en scène Walter Benjamin dans le texte que je viens de lire en ouverture, un texte qui fait partie de ses 18 thèses sur le concept d'histoire. Opposition de deux conceptions de l'histoire dont les enjeux sont considérables sur le plan historique, philosophique, psychologique, théologique et politique. Une lutte entre histoire fermée et histoire ouverte, ou entre histoire et contre-histoire. Vincent Peillon, merci de nous éclairer sur cette opposition fondamentale.
Oui, la pratique de l'histoire qui est celle de Joseph Salvador, dont il pense qu'elle est d'ailleurs l'histoire juive, dont il me semble qu'elle peut être partagée tout à fait au-delà de la philosophie juive ou de la pensée juive, c'est une idée qui consiste à soutenir que pour s'engager dans l'avenir, il faut aller délivrer des sources qui sont dans le passé. Ceux qui souvent vivent uniquement tournés vers l'avenir risquent, c'est le progrès dont parle Benjamin, de voir les ruines s'amonceler. Et en réalité, ceux qui veulent accoucher du neuf doivent d'abord commencer à briser ce qui dans le passé relève de la nécessité. Une autre histoire était possible. Ce thème est un thème séminal, on pourrait dire, de la pensée juive, de l'interprétation. D'ailleurs, toute interprétation est un récit qui va faire bouger le passé. Sinon, le passé, c'est ce qui vous tient, c'est ce qui vous détermine. Si vous ne commencez pas par faire cet acte de la liberté, qui consiste à réécrire votre passé sur le plan de l'anamnèse individuelle, c'est la psychanalyse, sur le plan historique, alors vous êtes en faillite. Alors c'est une curiosité, parce que ça consiste à dire que nous ne pouvons construire l'avenir librement, dignement, que si nous faisons d'abord un travail d'historien. Historien ne veut pas dire se souvenir de ce qui a été et qu'on nous enseigne, mais ça veut dire aller chercher dans l'histoire des ressources pour construire autrement notre futur. Et il est très important de garder cette idée que la liberté a besoin de cet enracinement. Je ne commence pas à neuf. Les gens qui pensent qu'ils sont tout nouveaux, qui vont tout inventer par eux-mêmes, généralement ne font que répéter des choses qui ont déjà été dites, entendues. Ils rabâchent. Celui qui croit être original, souvent rabâche. Celui qui connaît la tradition, qui se donne l'intelligence de la tradition et la liberté de son commentaire et de son interprétation, a une chance peut-être de construire un avenir différent. Et donc c'est un acte de liberté formidable et c'est cette condition humaine tellement curieuse où les trois extases du temps, passé, présent, futur, se tiennent toujours. Il ne faut pas en lâcher une. Il y a les gens du présentisme, ils ne voient pas l'avenir, ils ne voient pas le passé. Il y a l'histoire antiquaire, comme disait Nietzsche, c'est ceux qui sont dans le passé et qui n'en sortent pas. Il y a les fous du progrès qui sont toujours dans le temps d'après, qui ne profitent ni de l'un. Non, il faut tenir les trois ensemble. Et je crois que Benjamin, de façon très tragique, mais dans ce commentaire, dit ça, et je crois que c'est très lié à la pensée de Salvador, et je dirais à la, enfin en tout cas pour Salvador, à la pensée juive.
cette distinction amène aussi une distinction entre se souvenir et se remémorer. La remémoration n'est pas la mémoire, Vincent Peillon.
Non. D'abord parce que vous voyez bien, c'est très intéressant comment vous le formulez vous là, c'est un acte. Et cet acte ne consiste pas à le passé, c'est ce qui est mort. Non, là, le passé doit être vivant dans la remémoration. Parce qu'il est déjà ce qui nous engage à écrire les choses autrement. C'est un thème qui est un thème juif, mais moi je l'ai trouvé aussi, si vous voulez, par exemple, l'Uchronie de Renouvier. C'est un thème qui a été très présent dans les philosophies républicaines du 19e, parce qu'il voulait échapper, au moment des philosophies de l'histoire, 19e siècle, à la nécessité historique, c'est-à-dire quelque chose, vous voyez, ça se déroule nécessairement.
Au destin.
Voilà, au destin. Voilà. Et donc, quelque part, ils disent, non, l'histoire aurait pu se dérouler autrement. Et c'est parce qu'il y a cette contingence, nécessité veut dire ce qui ne peut pas être autrement, contingence, qu'il y a de la liberté possible. C'est déjà un acte de la liberté, et d'ailleurs, c'est un choix qu'on fait dans le présent d'écouter le passé. Si tu es capable d'entendre ça, d'écouter ça. Alors la remémoration, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette... L'historien des sciences, Coiré, disait « Rien ne change plus vite que l'immuable passé ». Alors je lisais cette phrase quand j'étais jeune, je me disais « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais il appartient à toute génération de réécrire son histoire. Soit vous la répétez, c'est l'éternelle répétition du même, et c'est les mêmes pensées convenues, et c'est la même histoire des vainqueurs, dans le fond. Soit vous allez chercher dans l'histoire des voies oubliées, des potentialités non exploitées, des bifurcations. C'est ça la vraie pratique de l'histoire, c'est celle de Salvador, et j'espère aussi d'ailleurs que comme herméneute, comme interprète, c'est la mienne.
Alors c'est la vôtre, et vous citez Stéphane Moses, qui a commenté si admirablement la pensée de Walter Benjamin dans son livre qui s'appelle « L'ange de l'histoire », et qui convoque à propos de cette question de l'histoire le verset 7 du psaume 95, qui dit en hébreu « Ayom im bekolo tishmeu » « Si aujourd'hui, si vous écoutez sa voix ». Le concept d'aujourd'hui, « Ayom » en hébreu, « heute » en allemand, est un concept fondamental dans cette réflexion de l'histoire. Comment faut-il le comprendre, ce « aujourd'hui » Vincent Peillon ?
Pour moi, c'est cet acte de la liberté, c'est-à-dire que nous avons un choix. Nous avons le choix d'accueillir, de laisser notre porte ouverte à chaque instant. Nous avons le choix à faire, c'est un choix éthique profond. Nous avons le choix d'écouter les voix du passé. Nous avons le choix de réécrire. Nous avons le choix de ne pas suivre toujours les dominants. Donc, tout d'un coup, il y a quelque chose à entendre dans l'aujourd'hui. Autrement dit, il y a la possibilité, c'est ça que veut dire l'aujourd'hui, cette écoute, hein, c'est une écoute. C'est la possibilité de faire jouer la liberté dans l'histoire. Voilà, de faire jouer la liberté dans l'histoire.
D'actualiser le passé,
voilà,
d'une certaine manière.
Et c'est, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens par rapport à la tradition religieuse, l'homme doit être actif. Il questionne Dieu, il n'est pas simplement à le passivement recevoir des ordres divins. Et il doit faire avec Dieu. Et dans la tradition juive d'ailleurs, il est appelé à prendre sa responsabilité. Et sa responsabilité, elle a lieu dans l'aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi, et ça c'est très important, que nous n'avons pas à nous détourner du monde et des autres. Voyez, et c'est une des grandes oppositions entre Rome et Jérusalem, ou le christianisme et le judaïsme. Dans cette écoute aujourd'hui, telle qu'il est dit là, c'est aussi, il faut que tu sois capable d'être attentif et d'écouter ce qui se dit autour de toi. Et donc, on le verra avec un certain nombre d'auteurs juifs, celui qui à un moment est dans la misère, dans l'oppression, dans la domination, dans la difficulté, dans la guerre, tu dois. Et donc, c'est un impératif éthique, et c'est le sens, d'une certaine façon, du dialogue religieux, du dialogue entre l'homme et son Dieu. C'est pas un Dieu inaccessible, c'est un Dieu qu'on doit écouter, et donc se rappeler à sa mission, et sa mission, elle comprend cette écoute. Donc c'est ça que ça veut dire, mais cet aujourd'hui, c'est comme une pointe, c'est incisif.
C'est très phénoménologique dans la mesure où on définit la phénoménologie par les marges de notre perception et pas simplement notre perception. Ce que l'on perçoit aujourd'hui n'est pas ce que l'on a perçu hier ni ce que l'on percevra demain. Et donc on doit réagir à la parole que l'on entend en fonction de notre perception des marges.
Vous avez raison, et c'est la décision. Moi j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans une journée de l'homme ordinaire que nous sommes, vous et moi, nous avons pris des tas de décisions, comme nous sommes passés devant un monsieur ou une dame qui était par terre dans la rue, lorsque nous avons laissé notre place dans le train, lorsque nous avons parlé à quelqu'un avec qui nous travaillons. Et tout ça est religieux. en ce sens que à chaque fois nous avons une décision à prendre. Je te souris ou je ne te souris pas. Je te parle poliment ou je ne te parle pas poliment. Je m'intéresse à toi ou je ne m'intéresse pas à toi. Écoute aujourd'hui, pour moi c'est ça que ça veut dire. Alors pour des gens qui écrivent l'histoire parce qu'ils veulent bâtir leur futur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que cette écoute, c'est ceux qui veulent bâtir le futur, un futur qui ne découlerait pas nécessairement, comme dans la physique classique, du passé. C'est-à-dire un futur qui peut s'inventer, sur lequel nous avons un rôle à jouer. Donc l'homme a un rôle politique à jouer sur la société qu'il veut, sur la vie qu'il veut. Ça passe d'abord par cette écoute, mais qui nous rappelle un autre devoir. C'est-à-dire, attends, tu suspends un peu le temps et tu te dis, là, j'ai une décision à prendre.
C'est ça, c'est l'aujourd'hui qui fait bifurquer l'histoire par la décision.
Donc la responsabilité.
Donc la responsabilité et l'engagement.
Voilà.
Alors cette actualisation des possibles oubliés que vous avez évoqués se rencontre aussi dans l'histoire de la philosophie et permet de réparer, de rédimer, de faire le tikkun, dirait-on en hébreu, de certains silences de l'histoire, de certains effacements et d'exhumer, de ressusciter des auteurs oubliés comme Joseph Salvador, à qui vous consacrez votre dernier ouvrage. Comment l'avez-vous rencontré dans vos recherches, Vincent Peillon? Et qui est Joseph Salvador, à propos duquel vous dites, et je pense que c'est très important, que c'est sans doute le philosophe juif le plus important du XIXe siècle. Très oublié, ce philosophe.
Oui, alors, il est, et heureusement, quelques personnes. Je crois que je l'ai rencontré lorsque je travaillais, qui est un de mes sujets de recherche depuis 30 ans, sur le socialisme pré-marxiste. Et il y a ce qu'on appelle les disciples de Saint-Simon. Et dans les disciples de Saint-Simon, vous avez beaucoup de jeunes gens qui vont arriver, les Halévi, les Destal, etc., qui viennent de familles juives. Il y a beaucoup de conversions parce qu'ils viennent d'Allemagne. Et donc, il y a beaucoup d'historiens qui avaient pensé que le saint-simonisme avait été une des façons, un des moyens d'assimilation, je ne sais pas quel mot employer, vous voyez, des juifs en France. Donc, je crois que je travaillais là-dessus et j'ai rencontré le livre de Michael Gretz, qui est un historien qui a été traduit dans les années 90, qui a fait un formidable livre sur les juifs en France, de la Révolution française à l'Alliance religieuse universelle. Et moi, je l'ai lu pour les saint-simoniens. Et là, je découvre un personnage dont beaucoup de gens ont dit d'ailleurs, c'est un saint-simonien. C'est, à mon avis, une erreur, mais bon. Et je découvre ce Joseph Salvator dont il dit qu'il a une importance considérable. Et telle, parce qu'il écrit une loi de Moïse en 1822, au système politique et religieux des Hébreux, qu'il va avoir une influence sur toute cette génération des pré-socialistes, des socialistes et des républicains français, puisque c'est le modèle de la République des Hébreux, de la loi de Moïse, qui est à la fois un modèle politique, social, civil. Bon, donc je pense que c'est ça. Et là, je commence à regarder. Et je découvre quelque chose d'absolument incroyable par un article d'un très jeune chercheur, beaucoup plus jeune que moi, qui s'appelle Joël Seban. Donc je fais comme on fait aujourd'hui, je vais sur Internet, et je lis la controverse de 1828 où ce monsieur dit, Joseph Salvador dit, mais arrêtez de nous accuser de déicide, en réalité Jésus était juif, ce qui est quand même pas facile en 1828 de dire ça. Hein. Ça semble évident aujourd'hui, mais ça a été un long combat. Et alors il reprend le procès et il dit, en réalité, il était tout à fait normal. Parce qu'il ne respectait pas la loi. Voilà. Donc, tout ça a été fait. Donc, c'est une controverse absolument épouvantable. Il est mis au banc de la société. Tout le monde dit, c'est un fou furieux. Je dois dire que même les juifs institutionnels qui sont en train d'entrer, de constituer les institutions juives, le mettent un peu à distance. Mais il va au nœud de la difficulté. C'est-à-dire, et qu'il va faire, à mon avis, dans toute son œuvre. C'est-à-dire, il dit, la grande affaire, c'est la confrontation entre deux modèles. Et donc arrêtons judéo-christianisme, etc. C'est-à-dire, c'est pas le trait d'union. Il y a une réelle opposition religieuse, philosophique, politique, morale, entre le judaïsme et le christianisme. Entre deux options qui sont toujours là et qui ne sont pas les mêmes, Rome et Jérusalem. Et là, je découvre autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui vaut dans d'autres domaines que j'ai déjà rencontré, en philosophie ou en histoire des idées. C'est que j'ai été formé, comme toute ma génération, à me passionner pour Hermann Cohen, pour Franz Rosenzweig, pour Martin Buber, qui pour moi est considérable dans mon trajet, etc., etc. Et puis je me pose la question benoîte de dire, mais est-ce que je suis capable de citer un philosophe juif français? Je peux vous citer des Allemands à ne pas finir. Bon. Et je me rends compte que non, j'en ai deux. Mais ils sont du début du XXe, c'est Léon Brunschwig et Henri Bergson qui sont les deux plus grands penseurs français. de la première moitié du XXe siècle qui sont juifs, mais qui ne le disent pas, ou qui ne sont pas connus comme philosophes juifs. Ils sont philosophes tout court, plus l'histoire de Bergson, qui est encore plus compliquée. Donc il faut attendre qu'on... Lévinas, sans doute on aura en parlé Nerf, mais Lévinas pour le grand public, pour qu'on trouve un philosophe français juif. Mais au XIXe, ah ben, il n'y avait pas de juifs. En... Donc il y a un problème. Alors nous avons un nombre de penseurs catholiques, un nombre de penseurs protestants, mais nous n'avons pas de penseurs juifs. Et en réalité, me semble-t-il, il y en avait quelques-uns, et il y en a un qui domine de toute sa stature la pensée juive française, mais qu'on a oublié. Et c'est Joseph Salvador. Et d'ailleurs, dans le livre, je fais ça après, je le fais dialoguer. Mais par exemple, l'histoire des juifs écrite par Léon Halévy en 1825, il a lu Joseph Salvador. Il le pille, mais il le cite, il lui rend hommage. Parce que, donc, dès le début, il est un auteur très important pour les Saint-Simoniens. Benjamin Constant le lit. Ernest Renan le lit et écrit sur lui. Donc, il n'a pas été totalement, si vous voulez, au départ, il est mis de côté, mais quand même, son œuvre est tellement puissante qu'on est obligé de s'y confronter. Des grands rabbins ou des grands penseurs juifs, alors pas nécessairement français, même s'ils étaient très proches, je pense à Elie Ben Amosek, par exemple, dialogue dès le début, et d'ailleurs de façon assez critique, tout en lui empruntant certaines choses, avec Salvador. C'est une référence, et puis tout d'un coup, il disparaît totalement. Et alors pour finir, je tombe sur un livre, et là vraiment c'est le mystère des éditions, si vous voulez, d'un très grand philosophe, historien, qui s'appelle Hans Kohn, qui a fait un passage en France. Il est né à Prague. Il est passé en France où il a épousé Jetival, je pense la sœur de Jean Val, à vérifier. Il est parti en Palestine. Il a trouvé que ça ne ressemblait pas à son rêve sioniste. Et il est revenu, il est allé en Angleterre, et il a écrit en français un livre qui s'appelle « Humanisme juif », dans lequel il y a un passage absolument éblouissant, que je cite longuement dans le livre, sur Salvador, et où il dit ça, il dit... Ben, il y avait là un judaïsme, je crois que ça s'appelle « Sur les routes du judaïsme français ». Alors, on n'a pas cheminé sur les routes du judaïsme français. Et l'idée était, avec Salvador, et d'élargir le propos d'ailleurs, ce que je fais dans toute la fin, en allant jusqu'à André Néer, jusqu'à des penseurs très contemporains, de montrer qu'il y a une particularité, une spécificité du judaïsme français assez méconnue.
Alors, cette spécificité, c'est ce que vous appelez justement le judéo-républicanisme, qui est le sous-titre de votre ouvrage. Je pense que c'est important que nous expliquions qu'est-ce que c'est précisément ce judéo-républicanisme dont Salvador est l'étendard, si on peut dire, ou l'ambassadeur le plus important, Vincent Peillon.
Alors, il y a une histoire que les gens ne connaissent pas bien, parce qu'on vient juste de traduire seulement en France le livre d'un grand professeur d'Harvard qui s'appelle « La République des Hébreux », qui est qu'en réalité... La Révolution anglaise, puis la Révolution américaine, puis la Révolution française, s'est inspirée d'un modèle qui revient dans le XVIe et XVIIe siècle, particulier évidemment par les protestants, l'invention de l'imprimerie, et donc on fait déjà des lectures de la Bible hébraïque. Et dans la Bible hébraïque, on découvre un modèle qui s'appelle la République des Hébreux. Vous avez un nombre de livres au XVIe et XVIIe qui traitent la République des Hébreux comme modèle politique pour la modernité. Donc la modernité, elle serait pas grecque et latine, comme on nous l'a enseigné à l'école, elle serait juive, par l'intermédiaire des protestants. Pourquoi ? Parce que dans le judaïsme, vous trouvez trois idées modernes. Une première idée, donc on est bien république, c'est une république. Hein ? Nous trouvons une première idée qui est, dans le fond, on va faire un contrat social par le consentement de ceux qui vont entrer dans la société politique. Et nous ne voulons pas de roi, tout le débat avec David, nous ne voulons pas de roi, nous voulons pouvoir gérer tous ensemble notre vie commune, on va dire. Bon, très bien. Donc, on a un modèle politique. Et avec la liberté, c'est-à-dire, souviens-toi que tu étais esclave, etc., le premier acte, c'est la liberté. Premier mot de notre devise républicaine. Bon. Deuxième, c'est il n'y a rien sans justice sociale. Et donc, les premiers babouvistes sont les juifs. C'est-à-dire, il faut remettre ses terres tous les 50 ans, il faut remettre les dettes. Donc, il y a, et il le montre, il y a dans la Bible hébraïque, dans ce qu'on appelle la République des Hébreux, un impératif de justice sociale, d'égalité. Bon. Et puis, il y a troisièmement, ce qui pourrait être une fraternité. c'est-à-dire cette idée d'une tolérance. Tu peux entrer dans la synagogue, même si tu ne crois pas ce que je crois, je dois te respecter, j'ai un modèle d'universel, l'universel juif, qui précisément par opposition à Rome, qui est prosélyte, qui est avec Constantin l'impérium, qui veut l'empire, demander aux gens de renoncer d'être eux-mêmes, non, je veux construire avec toi un universel, car nous partageons une même humanité, d'origine et de fin, c'est la doctrine juive, mais elle s'enrichira de nos différences. Et je ne te demande pas de devenir juif. Je ne veux pas te convertir. Je ne te demande pas d'avoir les mêmes croyances que moi, de respecter la loi, de respecter les observances, etc. Et je t'accueille même lorsque tu es en danger chez toi. Et je te permets d'exercer ton culte, y compris chez moi qui est un autre culte. Alors, ça, c'est l'idée de la tolérance. C'est une idée considérable. Donc, le 17e, libéral, si vous voulez, la révolution moderne, anglaise d'abord, américaine, puis française, s'inspire de ce modèle, la République des Hébreux. Quand on relit ça, moi j'étais par exemple un très grand lecteur de Rousseau, mais je n'avais pas vu que Rousseau fait référence à la République des Hébreux, dont il dit des choses absolument formidables. Donc ce modèle court de l'Angleterre à la France, et il y a juste un problème. C'est qu'évidemment, c'est un modèle qui est développé, vous l'avez chez Bossuet, dans le discours sur les Gallicans, dont Bossuet est le maître, développe énormément le modèle politique juif. Bon. Mais ils le font, comme les protestants puritains anglais, dans un modèle qui demeure chrétien. Donc il faut prendre ça, mais il faut quand même les dépasser. Mais ils écrivent des textes incroyables, mais les juifs ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Bon, donc c'est cette vieille idée de l'aveuglement des juifs, bon, alors ils sont témoins, ils sont utiles, ils avaient de bonnes idées, mais enfin maintenant il faut passer à autre chose. Et Joseph Salvador, qui traite cette question, dès son premier livre, La loi de Moïse ou système politique. Et le deuxième, en 1828, c'est l'histoire des institutions de Moïse, etc. Donc c'est bien la République des Hébreux. Lui, c'est la première fois qu'il nous donne, si vous voulez, une République des Hébreux non chrétienne, c'est-à-dire juive, c'est-à-dire écrite par un juif, qui là trouve occasion de fierté. Et dit, je peux le faire, parce qu'en fait, je finis là-dessus, la Révolution française, à qui il est très redevable, et de l'émancipation des Juifs, c'est un homme moderne, Salvador, il dit, c'est finalement la Révolution française qui a accompli et qui nous permet de revenir aux valeurs juives. Et donc, elle libère, si vous voulez, elle réalise ça. Et vous aurez ça dans tout le mouvement du 19e. J'ai relu, et je cite très longuement à la fin du livre, les rabbins en 1889, quand ils vont faire, dans chaque synagogue, un exposé, etc. On voit bien que c'est l'idée que la France est en train de revenir aux valeurs, pour les Juifs, aux valeurs juives, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, ce que j'ai décrit tout à l'heure, ce sont dans le fond des valeurs qui viennent de cette République des Hébreux. Donc voilà le républicanisme. Alors je finis sur une chose, c'est une des motivations du livre. Moi j'ai été élevé, à travers des gens comme Hannah Arendt, à travers Marus, dans une honte du judaïsme français. Ma famille, par ma mère, est une famille juive, française, intégrée, républicaine, j'ai été ministre de la République.
Et votre arrière-grand-père était grand rabbin de Mulhouse.
Exactement. Mais nous avons toujours servi l'État français, servi une idée de la République. J'ai été élevé dans cet amour de la République. Et cette historiographie dont je parlais, Marus, est dit en gros, sont des juifs honteux. Ça m'a beaucoup perturbé tout au long de ma vie, parce que je suis un laïc profond, chacun le sait. Je n'ai pas été comme ministre en tant que juif, et bien sûr que non, ni d'ailleurs comme philosophe. Mais je n'ai pas non plus à ne pas assumer mon histoire, mon identité, les valeurs qui sont celles de ma famille et son histoire. Et donc, je trouvais cette historiographie très étrange. Les fous de la République de Birnbaum, c'était en fait des couards. C'est pas Birnbaum qui dit ça, c'est cette historiographie anglo-saxonne. Et donc, une des motivations du livre, une des réflexions, c'était de montrer qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que, dès le début, nous avons eu un premier ministre, Léon Blum, en 36. Mais il y a un kibbutz, Léon Blum, en Israël. Il était premier ministre de la France. Moi, je suis allé voir son kibbutz. Mais il était en même temps sioniste. Et il a assumé. Il a pris assez de coups. Il a été lynché. Il a failli être laissé pour mort à la sortie de l'Assemblée. Mais il n'a jamais dit « je ne suis pas juif ». Il a toujours porté une certaine idée du judaïsme. Bon, et toute une tradition qui, des deux premiers ministres juifs, en 48, la France avait déjà deux ministres, Crémieux et Gouchot. Donc, on ne rase pas les murs. On ne rase pas les murs. On ne chuchote pas. Et là, vous avez une historiographie qui a été mensongère sur l'affaire Dreyfus, sur d'ailleurs qui a repris beaucoup des arguments des antisémites. Je pense même à Hannah Arendt. Son livre sur l'antisémitisme dit des choses totalement fausses sur les années 1890, etc. Et donc là, vous avez l'autre mouvement qui m'amène à ça, c'est de dire, mais est-ce que l'histoire des Juifs de France est l'histoire d'une dissimulation, d'une honte de son judaïsme. Pour finir, même...
Ce qui est intéressant, excusez-moi de vous arrêter, c'est que j'ai regardé dans le dictionnaire l'étymologie du mot « zéout » en hébreu, qui veut dire « identité ». Ça veut dire « être fier ».
Il y a deux axes dans le judaïsme français que j'essaye de montrer dans ce livre. Il y a deux lectures. Il y a une lecture qui est apologétique, c'est-à-dire qui dit, et c'est le mot qu'emploie, ce que vous
me dites.
Oui,
c'est la question que j'allais vous poser. Quelle différence entre l'apologie et la régénération, en fait ? Salvador veut faire une apologie du judaïsme. C'est exactement ça que vous voulez dire.
Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il dit ce que vous venez de dire, le mot exact que vous avez. Il dit, il suffit pas d'avoir été, dans le fond, émancipé au niveau des droits civils par la Révolution française, si on continue de vous frapper, de vous interdire d'entrer à l'école polytechnique, et si on continue de vous dire, vous devez vous convertir, qui était quand même la grande idée qu'on trouve. Donc il dit, moi je veux pas seulement avoir ces droits, je veux qu'on retrouve la fierté d'être juif. Il dit, c'est ça que je voulais faire gober. Quand il a 25 ans, il dit, je veux vous faire gober. Je veux vous faire gober, il emploie ce terme, le retour de la fierté. Il le fait pourquoi ? Et donc, il y a deux voies pour répondre très précisément à votre question. Il y a toute la voie dite de la régénération. C'est un terme qui est employé, y compris par les autorités juives, dans la suite de l'abbé Grégoire, de tout ce thème, qui est un thème qui dépasse beaucoup le monde juif, qui est un thème révolutionnaire. Donc, régénérer, ça voudrait dire naître autrement. Mais là, ce que ça veut dire, c'est, bon, ben, les juifs, on va vous intégrer dans la nation. Mais il y a une condition. C'est un, que vous renonciez à être une nation politique. C'est une question qu'il faut affronter. Elle est massive. Bon. Et lui, il dit non, non, non. Et puis, deuxième chose, vous avez quand même... Bon, c'est vrai, on vous a maltraité. Mais du coup, vous êtes devenu vicieux. Vos corps sont tordus. Vous êtes des petits voleurs. Vous ne savez pas. Et donc, on va vous régénérer. Ça veut dire on va vous rééduquer. Avec, au bout, comme l'avait d'ailleurs vu Rita Armand-Belot, mais beaucoup de gens, au bout, par exemple, chez l'abbé Grégoire, qu'on nous présente toujours comme un grand émancipateur, d'abord des propos insupportables sur l'abaissement des juifs, l'immoralité des juifs, qu'il faut rééduquer, mais derrière l'idée de la conversion finale. L'idée de la conversion finale. Bon, alors ça, c'est une voie. Et certains juifs ont quand même, dans les institutions, dit et souvent employé ce terme en disant « Bon, merci de nous avoir accordé l'égalité des droits, on va mériter, et donc on va apprendre de nouveaux métiers, on va apprendre à bien parler français, on va apprendre, etc. On va se régénérer, on va arrêter d'être usurier, on va arrêter, etc. etc. » Et en face, vous avez d'autres gens. Très tôt, avec un texte d'Isaac Pinto, qui s'appelait « L'apologie des Juifs », pendant la Révolution, un des mémoires qui a été présenté est un mémoire d'un monsieur qui s'appelait Hurwitz, qui est une apologie des Juifs, et qui dit des choses extraordinaires. Il dit, mais c'est à vous de vous régénérer. Fallait-il être dégénéré pour frapper des gens comme ça, pour les traiter comme ça? On ne pouvait pas entrer à Strasbourg, on brûlait des centaines de personnes, il y avait des pogroms partout. C'est vous, les dégénérés. Vous voyez, un type offensif quand même. Hein. Et donc, notre ami Salvador, il s'inscrit dans cette logique. Il se dit... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut retrouver la fierté, parce que si on nous donne des droits, mais qu'on nous dit en même temps, vous êtes corrompus, vous ne pourrez jamais bien vous assimiler, vous ne pouvez pas, comme en Allemagne, le texte de Daum, occuper des fonctions, devenir fonctionnaire, il faudra plusieurs générations pour qu'on vous confie des responsabilités, parce que vous êtes vraiment très altéré dans votre nature, bon, il y a un problème. Donc il y a vraiment deux voies. Je crois qu'on peut suivre dans le judaïsme français. À un moment, j'oppose Adolphe Franck, qui a été le premier professeur au Collège de France Juive, un esprit formidable, mais dont je considère qu'il s'est un peu laissé aller à vouloir s'assimiler parfois un peu à tout prix. Et en face, Salvador, qui évidemment va rester très solitaire, très maltraité, très guerroyant avec des tas de gens, mais qui, lui, est sur cette idée forte du judaïsme. Il faudrait peut-être dire à ce moment que, au départ... C'est un homme des Lumières, Salvador. Il est né en 1796, il a été éduqué pour être médecin à Montpellier. Il n'a pas du tout l'idée de s'occuper de questions...
Il a passé sa thèse.
Absolument. Et c'est en montant à Paris pour se spécialiser. Il vient d'un milieu, sa mère est catholique, c'est son père qui est juif. Descendant de... C'est la légende, la famille des Maccabées, une grande famille, etc. Il a eu une éducation juive, il a été circoncis, mais enfin, c'est un homme des Lumières. Il est dans un milieu, on se marie, vous voyez, enfin déjà des mariages mixtes au début du 19e, et ses références, c'est Rousseau d'ailleurs qui va garder, c'est l'Aufklärung, c'est des Lumières, etc. Mais il est là, à la fac de médecine, il dit qu'il regarde une feuille de chou, et dans la feuille de chou, il voit, 1819, il voit qu'il y a des pogroms en Allemagne, en Bavière, au cri de « hep, hep, hep ». Donc on frappe, on tue les Juifs au nom de « hep, hep, hep ». Qu'est-ce que ça veut dire « hep, hep, hep » ? Ça veut dire « Jerusalem est perdida ». C'est un cri antisémite qui veut dire « Jérusalem est perdue ». Et lui, il regarde ça, et il se dit, c'est incroyable. Alors il dit, je réagis pas en tant que juif, je vivais pas en tant que juif. Plutôt comme homme des Lumières, de dire, on a fait l'émancipation, on a fait les libertés, on a fait la tolérance, on a fait etc., tout ce que vous voulez. Et il se passe encore des choses comme ça. Ça va être des pogroms terribles, hein, qui vont monter en Bohême, qui vont monter au Danemark, qui vont monter, ça a été vraiment, en 1819, une période noire. Et à ce moment-là, il dit, mais je vais prendre ça au pied de la lettre. Je suis un scientifique. Vous dites que Jérusalem est perdue. Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi d'abord Jérusalem? Et est-ce que c'est perdu? Donc tous ces textes, donc les écritures, Jérusalem, à la fois la Jérusalem antique, puis Jérusalem comme l'année prochaine, la Jérusalem comme espérance, est-ce qu'on a perdu cette espérance? Et donc c'est de là que découle sa vocation, et il va consacrer 45 ans à travailler ces sujets, alors qu'au départ, il devait être médecin. Donc c'est l'expérience de la douleur, du mal, de l'antisémitisme qui le reconduit à cette fierté d'être juif et à cette volonté de comprendre. Il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on voit très souvent que beaucoup des philosophes juifs fonctionnent sur le mode du retour après une expérience personnelle, douloureuse, de l'antisémitisme. Bon, voilà, c'est ça, 1819. Et donc, Jérusalem n'est pas perdu parce qu'il veut répondre aux cris des antisémites.
Merci Vincent Peillon pour cette conversation absolument passionnante qui nous a donné à tous envie de nous plonger immédiatement dans la lecture de votre livre et l'œuvre de Joseph Salvador, dont je rappelle le titre « Jérusalem n'est pas perdue, la philosophie juive de Joseph Salvador et le judéo-républicanisme français » paru aux éditions Le Bord de l'Eau. Je vous propose de poursuivre cette conversation la semaine prochaine où nous aborderons d'autres thèmes de la philosophie de ce grand philosophe. Merci encore Vincent Peillon.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Plony Almoni, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications bibliographiques et biographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.